Vous écoutez
RMC.
RMC.
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Welcome, Silvinho. Are you okay? And are you happy to be
here? I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we'll go to fish. Huh?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, encore un qui va à la pêche, Roland, c'est Gentil Gala. Coach Courbis est là, Daniel Riolo est là. Avant de parler de Lyon, avant de parler des gardiens de but, petite nouveauté dans l'after, on va essayer de le mettre en place un peu toutes les semaines, hein, quand l'actualité le permettra. C'est le classement des Pinocchio de la Ligue 1, avec un jingle Pinocchio, en précisant que la présence de Roland, évidemment, est absolument parfaite pour cette première, parce que Roland a donc écrit un livre sur le mensonge, et lui qui n'a évidemment jamais menti toute sa vie professionnelle.
Je fais la différence entre mentir et cacher la vérité.
Ah, tu peux détailler ?
Ben non, je viens de
Ah si, je comprends ce qu'il veut dire. Mentir et cacher la vérité, c'est pas la même chose.
Tu l'appelles le mensonge par omission.
Exactement.
Ben non, mais des fois je pense que c'est intelligent de mentir si c'est pour pas faire de la peine à quelqu'un.
Allez, jingle Pinocchio de la Ligue 1.
Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Ouais. Moi non plus.
Voilà, on a déjà deux menteurs là, tout de suite. Bon alors, on va faire le jeu suivant, donc je vous passe l'extrait.
Ouais, on dit lequel est le plus gros mensonge.
Et déjà, vous dites mensonge ou pas mensonge, puis après on verra quel est le plus gros mensonge. Pas, ouais. Tiens, écoutez attentivement Igor Tudor.
Ah.
On y va.
Quand je suis arrivé ici, on m'a beaucoup parlé des arbitres et pas toujours de façon positive. J'ai été plutôt agréablement surpris, je m'attendais à un niveau plus faible. Dans l'ensemble, j'ai vu un bon arbitrage et pas seulement pour mon équipe, mais dans tout le championnat.
Non,
pas Pipo, parce que je pense qu'il s'attendait vraiment à ce que ce soit encore pire.
C'est dire l'image qu'on a à l'extérieur des arbitres français.
Je pense qu'avec tous les soucis et le travail que c'est d'être coach de l'Olympique de Marseille, je pense qu'il n'a pas dû regarder beaucoup d'autres matchs. Hein.
Peut-être. Donc Pinocchio.
Il y a quand même quelques coups de sifflet qui sont inquiétants depuis le début de notre championnat.
Effectivement. Attention, écoutez maintenant Lucien Favre.
Ah. Oh. Les rumeurs sont les rumeurs, mais pas de problème. Je connais ça. On a une très très bonne réunion une fois où il s'est exprimé. C'était une discussion avec tous les joueurs, tout le staff, etc. C'était très bien, quoi.
Tout va bien à Nice. Pinocchio, pas Pinocchio.
Ça s'est peut-être arrangé, donc je vais pas dire Pinocchio première classe. Mais
il dit au début, il y a pas de rumeurs.
Si, non, là, non, demi-mensonge. Je dirais demi-mensonge, moitié.
Roland, spécialiste des Pinocchio.
Pinocchio.
D'accord. Et puis un troisième extrait. Écoutez Christophe Galtier.
Voilà.
Depuis que je suis arrivé, tous les jours qui passent, tout ce que je vis dans le vestiaire en étant l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ce sont des choses normales de la vie d'un vestiaire.
Ouais. Non, mytho. Mito, il pouvait pas connaître ça, il pouvait pas connaître investir comme ça. Il a jamais connu ce genre de contexte et d'environnement. Donc Pinocchio première classe.
Pinocchio d'or cette semaine pour.
Pinocchio, pour je dirais par obligation.
Ah, moi j'en ai vu d'autres. J'ai vu d'autres. Non, le Pinocchio, c'est celui que t'as dit tout à l'heure aussi. Les avocats de Nasser qui disent non, il a rien à voir dans cette histoire.
Ouais, mais comme on n'a pas l'extrait sonore.
Ah, d'accord.
Tu veux faire les Pinocchio à l'écrit.
D'accord, bon,
j'ai aussi Peter Boss qui ne se sent pas menacé.
Tu vas pas. Non, Peter Boss qui ne se sent pas menacé, pardon, mais. On est sur un lourd Pinocchio, là.
Donc, c'était il y a quelques jours, ça.
Quand il s'agit d'un avocat, toi, tu penses qu'il n'y a pas la possibilité qu'il soit Pinocchio.
Non, ah, bah si, bien sûr que si, puisque l'avocat, il est là pour défendre le client. Donc, forcément, il est bien obligé. Enfin, ça fait partie du métier, presque, de mentir.
Absolument.
Bon, ben voilà.
Bon, voilà le classement des Pinocchio qui, évidemment, pourra évoluer. Hein. Donc, pour l'instant, on va dire que le numéro 1 est Christophe Galtier, suite à ce petit classement du soir.
Absolument.
Et on verra comment les choses évoluent durant la saison.
Ma petite parenthèse tout à l'heure, je voulais dire, est-ce que tu sais que l'after est écouté partout, comme tu le sais, mais également dans des endroits dont on ne parle jamais, c'est notamment en prison. On est écouté en prison. Donc, j'aimerais saluer ceux qui peuvent nous écouter et qui sont en prison.
Voilà. Ouais, c'est tout à fait logique.
Comme parfois, il y a des phrases sorties du contexte qui font du bruit alors qu'elles ne devraient pas en faire, surtout quand on les exploite mal, comme celle que j'ai pu dire aujourd'hui dans Estelle Midi. Et comme je sais qu'il y a des prisonniers qui nous écoutent en prison, je les salue et je leur dis de continuer à nous écouter et de surtout pas s'arrêter à des phrases sorties du contexte sur Twitter. Voilà.
Vas-y, répète-moi que c'était ta phrase.
Le débat sur est-ce que les prisonniers ont le droit à avoir Internet. Mmh. Je trouvais que poser la question comme ça, sans savoir à quel genre de prisonniers on la proposait, ce qu'ils avaient le droit de faire avec, dans quelles circonstances, je disais que je ne peux pas répondre à la question si je ne sais pas. Parce que par exemple, un terroriste ou un serial killer, qu'il ait le droit à Internet, je ne suis pas d'accord. Mais pour d'autres, oui, que je fais la différence entre le voleur de pommes et l'assassin d'enfants ou le terroriste. Et je disais donc que dans certains cas, j'estimais que c'était des sous-citoyens qui ne devaient pas avoir les mêmes droits qu'un vrai citoyen. Ça a été un peu exploité différemment.
Oui, oui. Voilà. Il y a
je fais une énorme différence entre différents prisonniers.
De gravité. Voilà.
Après, peut-être que Nordal Lelandais nous écoute en tôle. Je m'en fous un peu. Enfin, même complètement. D'autres, non. Je fais des distinctions entre les raisons pour lesquelles tu es à l'ombre, comme on dit.
La mise au point est faite. Voilà. Alors, du coup, avant de parler de Lyon, je vous livre un peu quelques infos du jour. On parlait d'arbitrage tout à l'heure. Sachez qu'une conférence de presse s'est tenue aujourd'hui. On va avoir des arbitres français à la Coupe du Monde. Ah. Ça ne vous a pas échappé.
Oui, ça, c'est, pendant un moment, tu sais qu'on n'y avait pas.
Hein. Et là, on aura deux arbitres centraux.
Vas-y, les noms.
Clément Turpin.
C'est un peu la vedette de l'arbitrage français.
Oui, mais alors, c'est bizarre parce que finalement, on le voit plus trop dans les grands matchs, Clément Turpin. Il est installé en vedette depuis quelques temps.
Il a un statut de vedette international.
Et l'autre.
Il se débrouille. Bon,
t'aimes bien Roland ?
Moi, je trouve
moins bon qu'avant.
Il avait un petit peu trop de facilité.
Il a pris un peu le boulard.
Pour les pénalties, mais là, je vois que son évolution est très positive. Moi, je le mets dans les bons.
Et puis, l'autre arbitre central, c'est Stéphanie Frappard.
Oui, là, en revanche, non.
Stéphanie Frappard, arbitre central.
Non, parce que je veux bien, ok, c'est une femme, machin, j'ai bien compris le manège, mais honnêtement, je trouve pas que ce soit, et je mets hommes et femmes ensemble, je trouve pas que ce soit un bon arbitre. Mmh. Voilà, tout simplement. Et je ne fais aucune différence de sexe.
Et donc là, il y a uniquement deux.
Déjà deux, c'est beaucoup.
Il y en a qui vont aussi pour le VAR, tout ça. Benoît Millot y est notamment.
Jérôme Brizard et Benoît Millot, arbitre VAR. Oui, donc ils n'arbitreront pas.
Benoît Millot, c'est mérité.
Benoît Millot qui est sans doute peut-être au moins dans le top 3, hein, on va dire, des meilleurs arbitres de Ligue 1. Voilà, je voulais vous signaler ça. Petite info, Mercato, la Gazzetta dello Sport explique. Et on prévoit un mercato de janvier assez actif, voire très actif, explique que la Juve s'intéresse de très près à Griezmann. Notamment aux conditions contractuelles de Griezmann, et la Juve se dit pourquoi pas cet hiver recruter.
La Juve va plutôt s'interroger à savoir comment on va virer Allegri, parce que sinon ils vont couler.
Ils s'intéressent aussi à d'autres Français, à Badiachil et à Ndika, les Turinois.
En gros, ils s'aperçoivent qu'ils ont une équipe en bois, mais c'est surtout l'entraîneur qu'ils ont en bois. Et d'ailleurs, parce que tu parles de la Juve, le GQ Italy.
Oui. Alexander GQ.
Non. Non, GQ, la revue, le magazine, le mensuel.
Un sens bourgeois.
Il y a une grosse interview de Paul Pogba.
Ah.
Mais c'est bizarre parce que c'est une interview qui a été faite alors que l'affaire était à peine sortie. L'interview était faite à ce moment-là. Donc il l'évoque à peine, parce qu'on ne savait rien. Donc c'est une grosse interview qui finalement sert pas à grand-chose. Tu sais que entre le doc sur Amazon, qui est nullissime, il fait beaucoup de choses qui ne servent à rien.
C'est de la communication trop maîtrisée.
Oui,
en fait.
Mais justement, ça donne du, de l'inutile.
De la communication trop maîtrisée, c'est une catastrophe. Dans l'actu du jour, je vous signale également que la mère de Cristiano Ronaldo a expliqué, un, que son petit-fils, donc le fils de Cristiano, était meilleur que Cristiano, au même âge. Elle a dit, oui, il est meilleur. Espèce de succession peut-être qui peut se faire. Et surtout, elle dit qu'elle fait tout pour que son fils aille jouer au Sporting.
D'accord.
Donc, je ne sais pas s'il y a une quelconque influence.
Sauf que l'entraîneur du Sporting n'en veut pas. Donc, voilà. Bon.
À voir. Donc voilà, c'est ce qui se dit au Portugal aujourd'hui. Dans l'actu du jour, je vous signale également que la FIFA va avoir une procédure disciplinaire, pour enquêter suite à l'incident raciste qui a eu lieu lors du match amical entre le Brésil et la Tunisie. Jet de banane après le but de Richarlison. La Fédé brésilienne a alerté tout le monde très rapidement. On était sur place au Parc des Princes mardi, donc la FIFA se saisit elle aussi de cette affaire. Voilà pour l'actu du jour. Oui, coach.
J'ai encore noté dans ce match-là, qui est un match de préparation, un match quand même assez extraordinaire pour les Tunisiens, pour tout le monde, pour les sponsors, pour la télé. Et donc vous avez dû penser à moi avec mon carton orange. Donc d'un coup là, il y a un tacle. Et la Tunisie qui est déjà en difficulté contre une équipe comme le Brésil, et bien en plus le joue à 10.
Non mais Roland, il y a pas besoin de carton orange sur cette action. C'était juste carton jaune en fait.
Ben, en plus. Mais dans le pire des cas, si tu considères que il fallait être un peu plus sévère que le carton jaune, mais pas un carton rouge qui donne malheureusement le handicap à la Tunisie, c'est plus un match amusant à la suite de ce carton.
Excuse-moi, mais si jamais ton carton orange existe un jour, il y aura quasiment plus de carton rouge.
Non, moi je maintiens le carton rouge. Mais entre le jaune et le rouge, eh ben le carton orange, j'en ai marre de voir au bout de 5 ou 10 minutes des fois un carton sévère rouge et qui donne la possibilité.
Ah, ça t'a pas plu le carton après 5 secondes dans le match la dernière fois là ?
De quoi ?
Ah, le carton de Todibo.
Le carton rouge, t'as trouvé que c'était bien ça ?
Mais catastrophique. Catastrophique. Donc je sais pas si l'arbitre il se rend compte qu'il a, avec ce coup de sifflet, cette décision, ben, gommé tout amusement quand il y a un suspense. Il n'y a plus de suspense.
Allez, l'OL au programme dans quelques instants. Genesio qui se compare à Peter Boss dans la revue de l'After en ouais. Débat parce que tout Lyon en a débattu ces derniers jours. Et évidemment, l'After ne pouvait pas passer à côté. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Gilbert Brisbois.
23h13, coach Courbis est là, Daniel Riolo est là, supporter lyonnais et rennais. Vous allez être concerné par le petit débat qu'on va faire maintenant. Il concerne Bruno Genesio. Bruno Genesio qui est dans la rue de l'After, qui est actuellement en kiosque et en librairie. Une dizaine de pages pour cette interview très très longue. Daniel, tu es allé le voir à Rennes ?
Non.
Ah oui ?
Non, c'est vrai.
Vous l'avez fait par.
C'est d'ici parce que.
Au départ, vous devez aller voir.
Quand on est arrivé gare Montparnasse, il y a eu un problème, ils ont annulé le train.
Ah voilà, bon. Voilà.
Donc bon. On l'a fait
on veut dire que tu étais virtuellement à Rennes.
On l'a fait en Zoom.
Alors en fait.
Ça marche bien, l'interview en Zoom.
Rappelons pourquoi.
On était avec Jérôme qui se faisait une joie, tu penses. Il devait être mon guide à Rennes. Il était tout content, il est arrivé avec son petit panier repas, son sandwich pour le train et tout. Et franchement, je me souviens plus de ce qui s'était passé, mais d'un coup, train annulé, on n'a pas pu y aller.
Voilà. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire cette interview ?
Pour rappel. Pourquoi ? Il n'y avait pas vraiment de pourquoi. C'était.
Il y avait un historique entre l'After et Bruno Genesio.
Non, mais il n'y avait pas de pourquoi dans le sens où il n'y avait pas une raison particulière à ce moment-là.
Il y a eu la bonne saison de Rennes.
Comme c'était un entraîneur dont on a beaucoup parlé dans l'After, qui indirectement était devenu un peu comme un ami, comme quelqu'un qu'on avait autour de la table, puisqu'on parlait beaucoup de lui à la fin de la saison qu'il venait de faire avec Rennes, où il est sacré. D'ailleurs, je crois qu'on prend la décision de faire l'interview alors qu'il n'est pas encore meilleur entraîneur de l'année nommé, mais on se doute que ça va être lui. Et ben, je trouvais que c'était bien d'avoir l'interview du meilleur entraîneur de l'année.
Et pour le féliciter. Quand tu le surnommes Pep, c'est pas que tu le charmes, au contraire, c'est pour le féliciter.
Parce qu'il faut rappeler qu'au départ, il aimait pas du tout.
Ça l'a plus fait marrer, c'est plus parce que certains se foutaient de lui, mais lui, je pense que ça le faisait plutôt rire au début.
Il comprend la plaisanterie. Voilà, exactement. Il est pas con du tout.
Et ça, c'est vrai. Et donc, c'était chouette de faire cette interview pour plein de raisons, parce que ça nous permettait de nous expliquer, de parler, parce que, en plus, j'étais sûr qu'il accepterait, et j'étais sûr qu'il accepterait que ce soit très long, pour qu'on ait le temps de parler de plein de sujets. Et effectivement, je pense que ceux qui ont lu la revue, ont dû aimer l'interview, qui était faite sous contrôle, encore une fois, de Jérôme Thomas, parce qu'un Rennais devait forcément contrôler ça.
Et alors, ce qui est un, bon, entre autres sujets, il parle de évidemment de l'OL de Peter Bosz. On sent quand même, bon, il y a toujours un peu une rancœur, quoi, parce que Lyon, c'est chez lui, c'est son club, ça s'est mal terminé. Vous compariez les saisons de Rennes et de Lyon. Lyon, qui, huitième, la saison dernière, fait sa pire saison du 21e siècle, on le dit à chaque fois. Et là, j'ai les yeux à cette phrase, il dit, moi, j'aurais fait ça à Lyon, je me serais fait allumer. Sous-entendu, Peter Bosz, c'est passé nickel, tout le monde le soutient, il est encore là. Et alors ça, ça a beaucoup fait réagir les supporters lyonnais. Ils ont été un peu divisés, ceux qui disaient mais Genesio, en gros, tais-toi, t'es très loin du niveau de Peter Bosz, et l'autre qui disait bah ouais, Genesio a sans doute raison, on a été dur avec lui.
Mais en fait c'est une erreur, si bien dans moi je pense qu'il y a une erreur des deux côtés, on en a parlé plein de fois.
Qu'est-ce qu'on en dit ce soir dans l'after
d'interprétation, c'est pas vrai, parce que d'abord je m'étonne qu'il y ait des supporters lyonnais qui disent aujourd'hui Bosz lui est supérieur. Factuellement, c'est pas vrai. Sur ce qu'il a fait là. Mais Bosz, il a entraîné Lyon un an. Genesio, il est resté plus longtemps. Mmh. Et la première année, tout le monde n'était pas forcément sévère avec ce que faisait Genesio, qui a eu dès le départ un a priori. Et on en parle dans l'interview. Qui a eu un a priori, parce que c'est pas l'entraîneur, et lui-même le sait très bien, puisque lui-même le dit, c'est pas l'entraîneur que Lyon attendait, c'est pas l'entraîneur que les supporters attendaient. Donc c'était pas forcément sur sa personne, c'est tombé sur lui, parce que c'est le gars de Lyon, le gars discret que personne connaît, ça sentait la solution par défaut, il a pas, quand il arrive, il a pas un charisme fou dans la communication. Tout ça, il l'admet. Il dit que si c'était à refaire, il referait différemment, qu'il était peut-être pas préparé à tout ce qui s'est passé, à tout ce que ça a charrié, cette décision-là. Voilà, c'est ça, en fait. C'est une mauvaise rencontre au mauvais moment. C'est ça qui a déçu les supporters. Comme dans la foulée.
Si je me rappelle bien, quand il prend justement l'équipe, le supporter lyonnais, ben, et pense que c'est tout simplement provisoire. Et après, on s'aperçoit que tout compte fait, ben, malgré la présence d'un entraîneur provisoire aux yeux, eh ben, ça marche pas si mal.
Il y a des rumeurs qui annoncent les plus grands coachs d'Europe.
Voilà. Et là où il y a la déception des supporters lyonnais, c'est qu'à la fin de cette saison-là, eh ben, au lieu de le voir reprendre un petit peu son poste, il continue. Et c'est ça qui est un petit peu décevant pour les supporters lyonnais. Mais je pense que ça, Bruno, il a même pas besoin de s'en offusquer. C'est tout à fait logique. Il va pas aller contre le proverbe nul n'est prophète dans son pays. Il le connaît, ce proverbe.
Mais il aurait aimé l'être. Et ça, je pense qu'il traînera cette cicatrice pendant très longtemps. Et que l'année dernière.
Dis-moi, je peux faire un parallèle avec toi, Roland?
Non.
Avec toi à Marseille.
Non, mais c'est pas tout à fait pareil, parce que je pense qu'il est déjà à Lyon et il devient entraîneur de Lyon. Entraîneur de Lyon, c'est quand même l'entraîneur d'un grand club français. Alors que moi, quand j'arrive à Marseille, je viens de Bordeaux, on termine devant Marseille.
Et
on va
déjà
finale,
fait,
on va finale de la Coupe de la Ligue.
Non, mais t'avais déjà été entraîneur. T'avais Genesio, c'est sa première expérience en entraîneur principal.
Ben oui, donc
toi, t'avais déjà une carrière.
Il est au club. Moi, j'avais déjà été à Bordeaux, donc si tu veux, c'est difficile à comparer. Mais par contre, c'est vrai, je me rappelle des conseils de ma mère qui me disait, alors que moi je voulais combattre ce dicton en se disant bon, allez, même malgré que je sois marseillais, eh ben c'est pas un handicap, au contraire, bon, ça s'est joué à pas grand chose.
Bon, alors revenons sur Genesio et Lyon, parce que Kenneth est là au 32-16, supporter de l'OL. Kenneth, bonsoir.
Bonsoir, comment tu vas, Daniel?
Très bien.
Ça met un visage.
Ouais, pardon, j'ai pas entendu ta phrase, excuse-moi.
Bah, tu te fais pas de moi, ça met un visage ou pas maintenant?
Oui, non, bien sûr. J'avais pas entendu ce que tu avais dit, pardon. Oui, bien sûr.
Kenneth, quand t'entends, toi t'es supporter de Lyon, oui. T'es d'accord avec Genesio quand il dit que si lui avait fait la saison de Peter Bosz, on aurait été beaucoup plus dur avec lui qu'on ne l'a été avec Genesio, tu m'as compris?
Oui, j'ai très bien compris. Alors oui, je vais le rejoindre sur ce point-là. D'ailleurs, moi, le premier, j'étais un grand détracteur de Genesio. Hein. Je l'appelais Pep comme Daniel. Voilà, c'est vrai que c'est un entraîneur qui manquait de charisme, à mon sens, pour entraîner un club comme l'Olympique Lyonnais, qui manquait d'expérience. Donc sur ce point-là, je vais le rejoindre complètement. Il se serait fait découper, mais à 1000%. sur ce point-là, en tout cas. Maintenant...
Non, mais si Boss fait une deuxième année comme ça, je t'assure qu'il va se faire découper. Il va même se faire virer avant Noël.
Ah oui, oui, mais moi...
Donc finalement, il n'aura pas été plus... On n'aura pas eu plus d'indulgence pour Peter Boss. Il faut faire très attention.
Moi, je pense que si... Je peux me permettre. Si on veut faire... Excuse-moi.
Kélette veut finir. Laisse-le finir, Roland, et ensuite ouais, tu prends la parole, si tu veux bien. Vas-y, Kélette.
Ouais. Non, mais maintenant qu'on a fini ça, je voulais juste continuer, parce que lui, il est en train de se plaindre dans le sens où il n'a pas eu la reconnaissance. Il est un peu dans la guéguerre du fait que, voilà, maintenant, dans certains médias, on glorifie plus les entraîneurs étrangers que les entraîneurs français, qu'il y a un mal-être sur le jeu des entraîneurs français. Je pense que c'est plus... Ça se passe juste du côté de l'UNICATEF. On sert on donne des diplômes à des personnes qui ne sont pas forcément compétentes. On donne pas la chance à des personnes qui peuvent faire de bons entraîneurs, qui n'ont pas d'expérience d'anciens joueurs ou qui n'ont pas le bon entourage pour entrer dans ces formations-là. Maintenant, juste, je voulais parler de l'expérience Genesio, si je peux juste.
Vas-y, on t'écoute, tu peux y aller.
C'est que Genesio, il y en a beaucoup qui le regrettent. Dans la communauté MNH, je suis bien placé. Je discute, je fais beaucoup de space sur Twitter. J'ai fait quelques chaînes YouTube de supporters lyonnais. Et beaucoup, retournent leur veste et disent qu'à l'époque de Genesio, on arrive à accrocher une coupe européenne. Mais on s'en souvient, la deuxième place avec Genesio, on l'a eu qu'une fois, il me semble, c'était face à un match, dernier match face à Monaco il y a quelques années. Ensuite, c'est quoi? C'est troisième, quatrième place. Je crois qu'on a une quatrième place ou la plupart du monde troisième. On est qualifié en Ligue des Champions grâce à quoi? Grâce au finaliste du vainqueur de la Ligue Europa, qui lui-même était déjà qualifié en Ligue des Champions. Donc, son parcours, il est totalement biaisé. Il avait un meilleur outil aussi en termes de joueurs, beaucoup d'individualité, beaucoup plus cohérente et beaucoup plus productive d'un aspect tactique et technique. Et il avait les moyens de ses ambitions en termes de transfert. Il a eu l'argent également pour produire un jeu qu'il n'a jamais réussi à produire à Lyon, mais qu'il a réussi à faire à Rennes. Donc, est-ce que c'est une question d'environnement?
L'effectif de Peter Boss aujourd'hui est bien en dessous de celui qu'avait Genesio.
Moi, déjà aussi, il y a un environnement à l'Olympique Lyonnais qui est complètement différent à son époque. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un Bernard Lacombe qui était encore dans le tirage, qui un vrai connaisseur, un vrai qui avait l'œil, qui ramenait un peu l'institution encore sur le devant.
Il n'est déjà plus là, Bernard Lacombe, quand j'ai les yeux étaient coach.
Non, mais Kenneth, est-ce que tu as lu l'interview en entier, Kenneth?
Non, j'ai pas tout lu.
Franchement, je te conseille de la lire, parce que tu verras que tout ça, lui, il le dit, il est vachement lucide, Genesio, sur la situation, et il dit, ok, Rennes, mais en fait, il comprend que finalement, l'expérience lui a servi. Qu'il referait pas les choses de la même façon, mais qu'il admet certaines erreurs, qu'il comprend que finalement la communication, la façon de vendre un projet pour un entraîneur, c'est pas du vent, que c'est important pour les médias, pour les supporters, mais également pour les joueurs, parce qu'on est dans une époque où les joueurs sont sensibles à ça. Et ce qui fait qu'on a été, c'est ce que j'ai dit il y a pas très longtemps, ce qui fait qu'on a été indulgent cette année avec Peter Boss, au-delà du fait que ce soit sa première année et que pour une première année on a le droit d'attendre un peu, c'est que il vend bien le projet, il s'exprime très bien et il donne l'impression de vouloir mettre quelque chose en place de très fort. Sauf que, comme j'ai dit il y a une ou deux semaines, j'ai dit attention, c'est bien beau les conférences de presse fantastiques et les super propos et machin, tout ça. Sauf que là, encore une ou deux défaites, et il va sauter avant Noël, et on sera plus indulgent. Donc Genesio était très lucide là-dessus, et lui-même dit qu'il referait pas les mêmes choses, et qu'il a conscience qu'à Lyon, il aurait dû être et agir différemment.
Si on veut s'amuser à faire une comparaison, tout à l'heure, tu m'as posé la question, si ça ressemble un petit peu avec moi quand je signe l'Olympique de Marseille. Non, pas du tout. Mais par contre, je trouve là qu'on peut faire la comparaison suivante. Et comparer Genesio qui débarque de l'extérieur et qui arrive à Rennes par rapport à un Julien Stéphane qui, de l'équipe réserve de Rennes, est devenu entraîneur numéro 1 et il gagne la Coupe de France. Et Genesio, ce qui lui manque peut-être, c'est de ne pas avoir gagné une Coupe de France, voire même une Coupe de la Ligue.
Un titre, en fait.
Voire même, de se dire, tiens, dans les 10 années avec le Paris Saint-Germain, qui normalement est imbattable, mais il y a quand même eu Montpellier, Monaco et Lille. Il aurait pu y avoir Lyon, de la même façon qu'il aurait pu y avoir Marseille. Et ni Lyon ni Marseille n'ont été champions dans ces 11 années des Qataris. Alors qu'il y a quand même eu trois fois le Paris Saint-Germain pas champion. Et c'est ça qui lui manque à Bruno.
Quel est un truc à rajouter?
Ouais, non, mais juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez sur l'entraîneur, notamment sur le choix de Peter Bosz. Moi, je pense que le mal lyonnais est beaucoup plus profond. Ce n'est pas un problème d'entraîneur, encore une fois. Peter Bosz, oui, c'est une mauvaise pioche dans le sens où je pense qu'il n'est pas adapté à la situation actuelle, et je dis bien la situation actuelle du club. Je pense que gouverner, c'est prévoir. Il faut savoir quel effectif tu as, quel entraîneur tu as besoin pour tirer la quintessence de son effectif. Et je pense que Peter Bosz n'est pas un policier. Il a besoin d'avoir un club bien structuré autour de lui pour pouvoir, je pense, produire le foot qu'il a envie. Et aujourd'hui, à l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il faut plus un meneur d'hommes, quelqu'un qui est capable de tirer la quintessence d'une équipe et d'être plutôt pragmatique et non dogmatique, tout simplement. Et je voulais juste dire, je suis intervenu cet été sur l'After Foot et je me suis fait défoncer par une partie de la communauté lyonnaise. Donc je sais ce que dit Daniel.
Pourquoi tu t'es fait
à ce moment-là, mais pourquoi?
Oh, parce que j'ai un peu défoncé la mentalité des jeunes à Lyon et bon voilà.
Faut pas toucher les jeunes à Lyon.
S'il dit qu'il a été plus que chahuté, menacé de mort, c'est un délire quoi.
Non mais oui, mais moi je le dis, hein, c'est vraiment une honte. Et d'ailleurs, si les gros ayatollahs de Twitter m'écoutent encore une fois, ils veulent me. Allez-y, j'ai le dos large. Allez-y.
Ouais. Réponds pas hein, parce que ça pourrait être toi qui finis par être banni comme moi. Hein, donc attention.
Bon, après, ça dépend de la façon dont on répond.
Bah non, y a pas. Si t'es insulté du matin au soir et menacé, au bout d'un moment, on peut estimer que t'as le droit de péter un câble et de répondre même violemment. C'est ce que j'ai fait. Ça mérite pas d'être banni à vie.
Oh, c'est ton point de vue.
Ça mérite d'être banni à vie.
Non, qu'il faut répondre violemment.
Ah non.
Tu peux choisir l'ignorance.
C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était intelligent de le faire. J'ai dit qu'on pouvait comprendre et que surtout ça ne méritait pas d'être banni à vie. Parce qu'après, j'ai tapé personne. Hein. Il n'y a pas eu de violence. Hein.
Kenneth, merci beaucoup.
Merci à vous et bon courage.
Salut Kenneth. Bonne soirée. Bon, puis j'ai les jours, on va suivre Rennes et puis la suite de sa carrière d'entraîneur. Parce que finalement.
Il faut qu'il fasse une autre belle année à Rennes.
Ouais. Est-ce qu'on le considère comme un jeune entraîneur, coach
J'ai les jeunes entraîneurs de voilà. fait. Hein.
Ouais, mais bon, quelqu'un quand même.
Il a 4-5 ans au plus haut niveau.
Voilà, c'est ça.
Qui est quand même maintenant assez expérimenté.
3-4, oui, il est dans sa 5e année de haut
niveau. Alors, je vous livre quand même quelques messages sur Direct Studio. Pinocchio qui lui dit « Donc, Daniel est un Pinocchio. Il ose nous dire que c'était pas pour se moquer de Genesio qu'on l'a appelé Pep. C'est quand même la plus grosse blague de 2022. »
J'ai pas dit que c'était pas pour se moquer.
nous dit Pinocchio, du coup.
Ah, j'ai pas dit que c'était pas pour se moquer. C'était ironique, c'est vrai. Oui, bien sûr qu'au début, c'était ironique.
Bon, et donc, effectivement, au début... Rappelons-le, ça lui avait pas vraiment plu. Voilà. Allez, tout ça dans la revue de l'After, retrouvé en kiosque, en librairie, bien sûr. Vous pouvez vous la procurer également sur afterfoot.media, le site de la revue. Dans un instant, on va parler des gardiens de but, messieurs. Oui.
Je dirais plus rien, je laisse parler Roland.
Roland, attention. C'est le dada de Roland, le gardien de but, poste qui a beaucoup évolué ces dernières années. Qu'est-ce qu'un bon gardien de but en 2022? Le débat est lancé dans l'After. On se retrouve dans quelques secondes.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Coach Courbis est là, Daniel Riolo est là. Deux petites infos, les gars. Vous dire que Neymar maintient son soutien total à Bolsonaro, c'est ce qu'il déclare ce soir. Voilà, vous savez qu'il y a les élections au Brésil à venir.
Bon, confirme qui est Neymar, c'est bien.
Voilà, il a toujours soutenu Bolsonaro, tout comme Lucas d'ailleurs, l'ancien joueur du PSG qui est.
Bon, comme la Bolsonaro. Plupart des joueurs,
hein. Quelle oui. catégorie le. Celui qui se présente.
Bolsonaro ?
Oui.
Extrême droite.
D'accord.
Avec certains dossiers très lourds quand même. Hein.
Exactement.
Ah ouais, quand même. Hein.
C'est le choix de Neymar. Voilà, je voulais vous donner cette information. On va parler des gardiens de but. Et là, les gars, je vous ai ramené un phénomène. Qui est là avec nous. Il s'appelle Dominique Garnier. Je vous ai déjà parlé de Dominique parce que. Tu te souviens, Daniel, de l'histoire du ballon de 82 ?
Absolument.
Eh bien, c'est Dominique.
Très bien.
Donc on va la rappeler en quelques mots avant de parler des gardiens.
Monsieur Roland était là ?
Non, mais Roland
était là. Ça va lui plaire cette histoire.
Dominique, bonsoir.
82, bonsoir. J'arrivais à Toulon.
82, t'arrivais à Toulon. Bon, tu te souviens de Séville, France RFA, évidemment.
Bah oui.
Dominique y était.
Eh oui.
Alors Dominique a la particularité d'être diplômé, entraîneur de gardien diplômé.
Oui, c'est mon métier, ouais.
Mais t'es aussi supporter de l'équipe de France.
Oui, et je vais faire au Qatar, je vais assister à ma 10e Coupe du Monde.
Dans les tribunes, supporters.
Dans les tribunes, fans.
Séville 82, il y était.
Voilà, j'étais derrière les buts à Séville. Et quand je crois que c'est Michel Platini qui, en deuxième mi-temps, tire au-dessus de la barre transversale, je récupère le ballon.
En bon gardien,
et en bon gardien, oui. Enfin, ça, je sais pas, mais je garde la balle. Et heureusement que je la boxe pas d'ailleurs, parce que sinon je l'aurais pas gardé.
Et le ballon, tu l'as gardé, le ballon?
Et je l'ai gardé. Et mais Schumacher non, attendait. Schumacher attendait le ballon, et moi je l'ai pas redonné. À l'époque, il y a pas tous ces petits enfants qui donnent le ballon direct. Et il attendait. Moi, j'ai gardé la balle. Et après, en fait, ils ont redonné un autre ballon. Et là, à la fin du match, je crois que c'est Manu Amoros qui frappe et qui tape sur la barre transversale.
Oui, oui.
Si j'avais redonné le ballon à un vieux ballon tango à l'époque, peut-être qu'il était moins gonflé et on aurait fait la finale de la Coupe du Monde. Désolé.
Pas mal, ça.
Et alors, ce ballon derrière, il a eu une histoire dingue.
Alors oui, en fait, il y avait Thierry Roland à l'époque qui parlait toujours de ce match comme un match étalon. Étalon, comme vous savez, vous étiez à l'époque.
Un repère.
Voilà. Et donc, il en parlait tellement que moi, avec Vincent Hardy que je connaissais,
je lui disais. Téléfoot.
Exactement. Et donc, je lui dis, écoute, ce ballon, il est chez moi, il sert à rien. Et comme Thierry parle toujours de ce match, moi, je vais lui offrir lors d'un téléfoot. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé à un moment.
On va le donner à Loulou pour son musée.
Il est arrivé chez Loulou, anyway.
Ah, il est arrivé là-bas, quand même.
Parce que, il est arrivé dans le musée de Loulou Nicolas à Montpellier.
Et l'histoire,
c'est fou, t'es sorti du stade avec la tristesse de ce qui s'est passé et avec le ballon sous le bras.
Parce que je voulais pas qu'on me le récupère, donc je l'avais gardé en dessous
vu la chaleur qu'il faisait, tu devais avoir qu'un t-shirt.
Exact, il faisait très très chaud.
Mais ça se voyait le ballon.
Il faisait très chaud. Tango, les Tango Adidas, si on peut donner la marque maintenant.
Ouais,
légendaire.
Et donc, un jour, on va visiter le musée Nicolas, parce qu'on faisait un after délocalisé à Montpellier. On était reçus, super, d'ailleurs, c'est très très sympa.
C'est toi qui l'avais donné, du coup.
Et le conservateur du musée, il ouvre une armoire. Il prend un ballon, il me le balance. Il me dit, tu sais ce que c'est ce ballon? Eh ben, c'est le ballon de Séville. Moi, je vois ça dans les écharpes dans les mains. Pour moi, c'est une relique. Tu sais, c'est le truc.
À l'époque, il n'y avait pas 10 000 ballons.
Non, il y en avait qu'un.
Donc, c'était, on peut imaginer que c'est sur ce ballon-là que Schumacher a ladé Battiston.
Oui, tout. Donc, on n'a pas tiré les pénalties avec ce ballon, puisque, je l'avais gardé. C'était une sacrée histoire.
On aurait gagné peut-être.
Exactement. Comme alors, quoi le football.
Et alors, là où je vous dis que c'est un phénomène, cet homme-là, parce que outre ses 10 Coupes du Monde et son diplôme d'entraîneur de gardien, il court combien de marathons?
Dimanche, il y a deux semaines à Sydney, j'ai fait mon 100e.
Voilà.
Voilà.
D'accord.
Et contrairement à Gilbert, qui mange que des graines, et moi, je cours les marathons parce que j'ai une très mauvaise alimentation.
Donc, je suis un gros fainéant. Les marathons avec une mauvaise alimentation.
Naturellement. Si. Moi, j'aime bien mon petit coup de rouge. Et puis,
on va dire que t'as une bonne constitution quand même, parce que t'as pas de problème de genoux,
maintenant, j'en ai fait 100. Maintenant, je peux avoir.
Et alors, t'es diplômé d'entraîneur de gardien et t'entraînes en Australie.
Ah oui, alors donc, j'ai entraîné pour une marque qui est sponsor l'équipe de France, recherche de talent en Australie pendant 3 ans, et quand le programme Nike s'est arrêté, puisqu'on a dit Adidas, donc on peut dire Nike.
Ouais.
Donc quand le programme Nike s'est arrêté, l'entraîneur de l'équipe d'Australie féminine m'a appelé et m'a demandé si je voulais être entraîneur des équipes nationales. Donc je m'occupe des filles de toutes les équipes nationales. Moins de 14 jusqu'au senior, jusqu'aux Coupes du Monde, et l'équipe d'État du New South Wales.
Voilà, qui est l'État de Sydney. Donc
qui est 70.
Donc tu vis à Sydney.
Ouais.
Il y a pire.
Il y a pire comme vie et il y a pire comme métier, c'est sûr.
Dis-moi, tu connais le fameux gardien australien qui a fait un gros show, là, rappelez-vous, la séance de tir au but, Australie-Pérou, là, qui a fait son show et qui a permis à l'Australie de se qualifier à la Coupe du Monde.
Oui, je le connais parce que je le côtoie, parce qu'avec le Sydney FC, là où il joue, on partage les terrains. Pour vous dire que le niveau de l'Australie au niveau football, ils partagent leur terrain avec une école privée où j'entraîne. Donc, il s'appelle Andrew Redman. Et donc, il est assez marrant, même dehors, hein, comme ça, il est.
Il a un look.
C'est un phénomène. Il est sympa.
C'est pas le gardien numéro 1 de l'équipe d'Australie.
Non, c'est le gardien numéro 2.
Mais ils le font rentrer s'il y a séance de pénal.
Bon, oui, parce que ça a marché. Ça a marché. Donc,
à la Coupe du Monde, je veux une séance de pénal.
Tu sais que
ça, il sort de la poule pour ça, mais.
T'en souviens, Roland, ce qui s'est.
Ah, bah oui.
Mais ça, toi. Je suis sûr que toi, ça t'énerverait de voir ton propre gardien faire un truc pareil. Ouais, tu le prendrais pour un coup. Je le connais par cœur, coach.
Quand ça marche,
c'est pas.
Quand
parce ça que marche, si, ça va. Si c'est le gardien qui cherche à déconcentrer, peut-être ça t'emmerde pas. Ben, ce que tu veux pas, c'est que le mec qui va tirer le péno fasse le guignol. Mais ton gardien, si c'est pour déconcentrer l'autre, qu'est-ce que tu dis?
Mais surtout, si on se qualifie,
voilà, exactement. par contre, avec les singeries qu'il a fait, s'il était passé à travers, il serait vraiment passé pour un.
Après, il en a chopé 15, je crois.
Il passe pour un con. Et le coach qui.
Et le coach. Malheureusement, heureusement que ça s'est bien passé parce que c'est un garçon, c'est un gentil garçon, Graham.
Mais il en chope qu'un finalement, il fait toutes les guignoleries et tout, mais il en arrête qu'un.
Le premier, je pense qu'il le touche, je l'ai pas revu.
Van Gaal aussi qui a fait ça.
Non, Van Gaal, il a changé le gardien, mais le gardien n'a pas fait de guignolerie. Il a juste changé gardien.
Il a arrêté le dernier.
Lui, ce qu'il fait sur sa ligne, je l'avais jamais vu. Ouais. Même quand on parle du légendaire Groblard en 84.
Il fait le pitre,
mais il le fait que sur un ou deux tirs. Il le fait juste un peu comme ça. Là, lui, c'est complètement fou. Si tous les gardiens faisaient ça, ça doit pas être facile pour un attaquant. Quoi, ouais. Franchement.
Non, mais quelque part, ça réinvente un peu ce moment des tirs au but qui est généralement un moment un peu figé pour les gardiens, parce qu'en plus ils peuvent plus rien faire les gardiens. Il y a l'arbitre qui va les saouler à chaque fois. Il faut faire ci, laisse ton pied sur la ligne et tout. Le mec, il a quand même inventé un truc. Ouais. C'est rare d'inventer un truc dans le foot aujourd'hui.
Enfin, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, cela dit, nous les gardiens au tir au but, on n'a rien à perdre, donc la pression elle est pas sur nous en fait. On a que la pression d'être un héros et de ne pas étouffer quand on arrête les pénalties par tous les autres.
T'as rien à perdre. Le plus emmerdé, c'est celui qui va celui qui tire.
Exactement.
Ah ben justement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui un bon gardien? On a le débat pour l'équipe de France. Beaucoup désormais veulent Maignan plutôt que Loris. Bon, il se trouve que là, on a eu Areola, Roland. Donc, t'étais pas là pour nous dire.
Areola, il aime bien. On pense que.
On va essayer de déterminer ensemble parce qu'on a deux spécialistes. Ce qu'est aujourd'hui un bon gardien. Est-ce qu'il faut forcément faire 2 mètres, comme c'est le cas maintenant partout? Quelles sont les qualités que toi tu développes, par exemple, parmi les gamins que t'entraînes, Dominique? Et puis Roland, qu'est-ce que tu veux, toi, chez un bon gardien? On va le faire dans l'after, il nous reste un gros quart d'heure pour ça, et on vous attend au 32-7 pour participer dans quelques instants. A tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h41, il y a une petite info qui vient de nous arriver avant qu'on prenne sur les gardiens. Kolasinac se blesse à l'entraînement. L'OM qui joue demain à Angers. Donc là, on n'a pas d'info en plus sur la nature de la blessure. Il revenait de sélection, il avait joué avec sa sélection.
Côté gauche, puisqu'il n'y a déjà pas Tavares.
Exactement.
Les gauchers, je ne sais pas s'il y en a encore.
Ben, on parlait de mettre Klose de l'autre côté, en fait.
Ah ben ouais.
C'est ça la tendance.
C'est souvent ce qui. Déjà, il l'a fait, ça.
Ouais. Bon.
Donc, ça va être ça qu'on va voir.
Sans doute. Coach Courbissier, Daniel Riolo est là. Et donc, Dominique Garnier avec nous, qui est entraîneur de gardien de but en Australie. Tu as aussi œuvré en France avant de partir?
Oui, j'étais donc en CFA2 et j'ai entraîné les gardiens de but en CFA2 et les filles en Division 1 quand Évreux était en Division 1 féminine.
Roland, essaie de nous dire. Parce que tu parles toujours des gardiens, que ce soit à l'antenne ou quand on regarde les matchs comme ça dans la rédac, t'es toujours concentré sur les gars. Pour toi aujourd'hui, vu le foot de maintenant, tu vois, le foot plus athlétique, peut-être plus rapide, pour toi c'est quoi un bon gardien?
Je change pas ma vision aujourd'hui par rapport à ce que j'ai toujours pensé sur l'importance d'un gardien. Pour moi, je pense qu'il y a dans une équipe de football, quelle que soit son organisation, ben, aux deux extrémités, tu as le numéro 9 et tu as le numéro 1 avec un poste qui est tout simplement, même, c'est même plus un poste, c'est un métier, puisqu'on est dans le professionnalisme, totalement différent de ses coéquipiers, même sur le plan de la couleur. Tu es gardien de but, tu as même pas la couleur de maillot de tes partenaires. Donc, pour moi, pour répondre à ta question, ben, sans rentrer dans les détails, après, on peut rentrer dans certains détails, c'est un gardien difficile à battre. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bons gardiens. Si je fais un tiercé, je mettrai Bell Olmeta et Gaëtan Huard. Gaëtan Huard, avec qui nous avons un record qui peut-être ne se battra jamais. C'est 14 matchs d'affilée sans prendre un but. Et la responsabilité de ça, c'est les gardiens de but. Mais heureusement qu'on a Guéguette qui a été un petit peu collectif et qui a dit non, pour qu'il y ait ce record, il fallait avoir une bonne équipe, il fallait avoir de bons défenseurs, il fallait avoir un bon mécanisme défensif, et c'est un de mes meilleurs souvenirs. Mais sur les trois, je mettrais quand même Joseph-Antoine Bell légèrement devant Pascal et Guéguette.
Bell, c'est un gardien qui était évidemment très 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 fort dans cette tradition des gardiens camerounais. Le premier, Thomas Nkono, était une légende. Mmh. Et Bell, il avait ce truc aussi. À un moment dans sa carrière, il y avait des matchs boulettes. Hein. Il y a ce fameux match à Rome avec Bordeaux. Il est catastrophique. Hein. Boulet, il pouvait être excellent, mais ça lui arrivait peu. Attention, ça lui arrivait peu. Boulet, mais il pouvait avoir cette tendance-là.
Ouais, sur 20 ans de carrière, tu peux effectivement faire quelques boulettes. Moi, ce que je réponds à ta question, par exemple, je regardais, quand je l'ai eu pendant un an à Toulon, ça me faisait toujours plaisir de regarder de temps en temps les exercices qu'on pouvait faire et l'entraînement des gardiens qui était quand même particulier. Entre autres, bon, décidément, j'étais toujours un petit peu original par rapport à la logique. Mon meilleur entraîneur des gardiens, c'était Delio Onis. Qui était normalement dans un réflexe logique. Tu disais, il est plutôt entraîneur des numéros 9. Eh ben non. Et là,
tu voulais faire bosser les potes,
je regardais ça et tu avais l'impression, Daniel, que derrière Joseph-Antoine Bell, les buts, mais je ne sais pas si c'est par rapport à cette façon de se tenir, on avait l'impression de voir des buts de hand, de voir des tout petits buts. Et derrière certains gardiens, j'ai l'impression de voir des buts de 15 mètres de large et de 5 mètres de
haut. Donc en fait, pour résumer, la première qualité pour toi d'un gardien, c'est le charisme en fait. Parce que là tu nous parles pas de technique, tu nous parles pas de jeu au pied, de prise de balle.
Je te parle quand même d'un gardien difficile à battre. Quand par exemple j'avais, si tu veux, le traditionnel souci que ont tous les entraîneurs, tu fais allez un jeu pour terminer, un 9 contre 9, un 10 contre 10, tu as un gardien d'un côté, un gardien de l'autre. Eh ben l'équipe qui joue avec Joseph-Antoine Bell, 9 fois sur 10, elle a gagné. J'étais obligé, moi, de faire la chose suivante. Allez, c'est bon, mettons, on faisait 2 fois 15. On change de camp, sauf les gardiens. Comme ça vous permet d'avoir des adversaires un petit peu différents et tout. Sinon, c'était même pas rigolo. Delio Onis, il me disait, mais voilà, moi, je vais être un peu vulgaire. Même à l'entraînement, pour lui mettre un but à Joseph, tu te lèves un cul que tu peux pas savoir. Et c'était Delio Onis, hein, donc pour marquer des buts dans certains exercices. Eh ben, il arrivait à me dire. Sincèrement, c'est assez impressionnant.
Ouais, avant de parler de technique aussi, c'est comme disait Roland, il faut déjà qu'il rende son but tout petit. Et donc, avant de parler technique, c'est sa position dans le but qui fait que toi-même, tu rends ton but plus petit.
Après, tu as la catégorie de Pascal qui, lui,
qui était tout petit.
C'était pas grand. En plus, ils étaient pas grands, ces gars-là.
Souvent, si tu veux, il arrivait à régler des problèmes en impressionnant l'adversaire par une sortie, par un cri.
Lui, c'était un kamikaze,
Les attaquants, ils se disaient, bon, ça va, c'est bon, des matchs, il y en a un autre, je vais pas m'emmerder avec cette espèce de gaga.
Anthony Lopez, de l'autre côté,
moi, j'étais content d'avoir un entraîneur comme Pascal. Un gardien comme Pascal.
Sur l'évolution du poste, Dominique, quand tu vois les gardiens d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un truc que tu déplores ou que tu dis tiens ça là-dessus vraiment s'est amélioré ou
avec le changement qu'il y a maintenant pas mal d'années que les gardiens maintenant doivent jouer avec leurs pieds. Le problème,
maintenant il y a plus de gardiens qui ne savent pas jouer au pied. Si tu ne sais pas jouer au pied, t'es plus gardien.
Exactement.
Au niveau
maintenant, il faut ils travaillent aussi, mais le problème est que on prend un gardien, il a un numéro 1 dans le dos, il n'a pas un numéro 10. Donc on exige du gardien qu'il ait une distribution aussi bonne qu'un numéro 10. Donc c'est pas évident non plus. Donc si on évitait de passer la balle, par exemple la dernière grosse bêtise du Paris Saint-Germain, si on ne donne pas la balle en retrait au gardien, il fait pas sa boulette. Pourquoi il ne passe pas directement la balle au milieu de terrain Donc c'est pas évident.
Ça, c'est pas évident,
mais par contre, maintenant, les gardiens doivent travailler au pied, ils doivent travailler leur technique de main, et puis leur placement, c'est des surhommes ou des...
Le style allemand, là, le style gardien de hand, t'aimes bien?
Alors moi, le problème avec ça, j'ai un gros problème, j'aime pas du tout, mais ça vient de... Vous savez, quand quelque chose marche, les gens, ils veulent le copier. Et c'est venu... avec Peter Schmeichel, que vous vous souvenez tous. Ce garçon-là, c'est un Danois. Après, les gardiens allemands, ils ont la même technique. Mais il faut savoir qu'à l'école, le sport numéro 1 au Danemark, c'est le handball. En Allemagne, c'est le handball. Donc, ils sont gardiens de but de handball à l'école. Et après, ils répètent la même chose dans les buts de foot.
Attention, parce qu'il y a les sorties de Neuer, par exemple, c'est plus en mode gardien de hockey quand tu regardes en vérité. Les jambes comme ça sur le côté et puis les bras, bon.
Mais en fait, quand ils sortent, et là tu l'as dit, Gilbert, quand ils sortent, ils mettent leur but plus petit qui devient un but de hand. Donc après, au niveau technique, après, moi, j'aime pas du tout ce qu'on appelle en anglais les five points. C'est-à-dire qu'ils se mettent en position, et pour moi, c'est une position de prière. Ils sont comme ça, ils tournent la tête, et ils prient que le ballon arrive dans leur corps. Exactement, t'as agrandi la surface corporelle sur un but que tu rends plus petit en avançant. Donc, plus tu avances, plus tu rends ton but petit. Tu agrandis ta surface corporelle, tu pries, et après, voilà. C'est pour ça que maintenant, il y a des attaquants. Parce que quand tu te mets en position comme ça, les attaquants, beaucoup, visent entre les jambes. Et donc, moi, j'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas. Mais bon, c'est une technique qui a marché avec Peter Schmeichel, Neuer, tous ces gardiens allemands, Ter Stegen, tous ces gars-là. Ils font tout ça.
Coach, toi là-dessus, sur le style et tout,
si tu veux, conseils je vois un petit peu les choses évoluer, et c'est pour ça que c'est difficile de choisir, puisque après c'est t'as les stats, des fois les stats ils sont surprenants, mais si par exemple je dois choisir sur ce que je vois depuis quelques années, qui c'est le meilleur gardien en activité. Je mettrai quand même Courtois. Courtois avec cette façon de jouer des deux pieds, il est gaucher, mais tu sais même pas s'il est gaucher ou droitier, alors que normalement quand tu es gaucher, c'est vraiment différent. On voit vraiment que tu es gaucher. Et quand je vois ce qui se passe aux deux extrémités de l'équipe du Real, il y a évidemment des bons joueurs partout, mais je mettrai Benzema à la pointe de cette équipe là et de l'autre côté Courtois, le nombre d'arrêts décisifs qu'il a pu faire, je crois, dans les stades, c'est un gars, parce qu'il y a l'arrêt, et puis il y a l'arrêt décisif. Ouais. Dans la catégorie des arrêts décisifs, je crois qu'il est presque en moyenne dans la Champions League à 3,80,
presque 4
arrêts décisifs. Tu t'imagines ce que c'est quand tu as déjà les joueurs dans ton équipe, les joueurs du Real Madrid, qui en plus gardien-là, c'est monstrueux.
Et moi, donc là, tu parles de Courtois dans un domaine de distribution. Moi, ce que j'aime bien chez Courtois, c'est un grand gardien par sa taille, mais aussi il va très vite à terre. Et ça, c'est impressionnant de voir ce garçon qui mesure 2 mètres et qui va chercher une balle opposée dans le bottom corner, dans le coin en bas, qui va très vite à terre. Et ça, c'est incroyable. Et donc, naturellement, il a de l'envergure et tout. Et comme disait l'entraîneur des gardiens de Chelsea là, et il a dit maintenant c'est vrai que nous on peut faire travailler des gardiens pour qu'ils travaillent vite et qu'ils aillent vite à terre, que tu peux pas faire travailler un gardien qui mesure 1m70 ou 1m78, tu peux pas le faire mesurer 2m. Donc
le problème c'est que maintenant de toute façon on veut plus de gardiens de 1m90,
mais même chez nous maintenant les sélections se font sur des critères aussi physiques. parce que on peut travailler la vitesse au pied, on peut faire tout, mais de faire grandir un gardien, il y a qu'à Barcelone où ils ont fait grandir Messi.
Ouais, mais sinon, tu bosses avec des jeunes, par exemple, comme
les gamins, avec les seniors.
Les gamins, tu peux pas déterminer à 14-15 ans comment ils vont.
Si, naturellement, tu les vois comment ils sont grands ou pas.
Si, si. À 14 ans, tu sais.
Ah oui, oui, tu vois, les sélections se font jeunes. Tu sais sans, quand le gardien va être grand ou pas grand. Tu le vois naturellement, oui, oui. Si, si, tu sais à 14-15 ans. Puis maintenant, tu sais même à la naissance, quand tu as un enfant, et ils vont te dire combien il va mesurer plus tard.
Ah, donc on peut choisir d'être gardien très tôt, donc. Ouais. Désormais.
Ouais, ouais.
Non, c'est vrai. L'échographie. Tu dessines le terrain, tu le places sur le terrain.
Après, tu sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais tu sais pas que grave, c'est un gardien.
Alors, non, j'inverse le problème maintenant.
Oui.
Quel est le truc qui va le plus t'exaspérer chez un gardien?
C'est que dans la mode de repartir depuis derrière, je pense qu'on pourrait éviter l'exagération. Quand, par exemple, tu as vu que l'équipe d'en face n'attend que ça.
Oui, mais c'est souvent pas la faute du gardien. C'est parce qu'on lui demande de faire ça. C'est pas la même chose.
Exactement. Moi, je suis dans les vestiaires et c'est le gardien, c'est pas lui qui va demander la balle. Au contraire, hein, c'est parce qu'on va lui dire, le coach va lui dire, ça dépend d'un schéma tactique. On repart, la balle elle est là, tu le redonnes au gardien. Et donc, il est
obligé de s'adapter.
Obligé de s'adapter. De toute manière, maintenant, il peut faire.
Finalement, tu le mets en danger.
On a vu les boulettes, hein, toutes les boulettes qui rendent célèbres, que ce soit Areola ou Donnarumma.
Il y a une qu'on a un peu oublié, quand même, c'est Loris en finale de la Coupe du Monde, quand même.
Ouais, mais bon, on menait déjà.
On l'oublie parce que
c'est champion du monde.
Ouais. T'imagines si
moi, je veux bien qu'il refasse la même au Qatar.
Oui, si ça se finit de la même façon.
Si c'est le but d'une défaite, ça. Je peux te dire que ça aurait été quand même très pénible pour lui de le digérer.
Ça lui coûte le titre de meilleur gardien, cela dit.
Et par exemple, pour ce qui est une exagération, je trouve imprudent par moment Donnarumma qui puisse repartir depuis derrière, ok, mais pas systématiquement. Ouais. Et même si le coach,
le principal problème de Donnarumma, c'est pas ça.
Le coach, il doit pas quand même te dire on repart depuis derrière, quelle que soit la position de l'adversaire. Non, il ne doit pas te dire ça. Dès qu'on peut repartir de derrière, on repart depuis derrière. Et après, de temps en temps, un bon dégagement et on fait sortir tout le monde. Ça permet de respirer.
Exactement. Aussi. Mais ça, c'est l'intelligence aussi du gardien aussi qui doit s'adapter. Hein.
Tu vois toujours un différentiel aussi énorme entre filles et garçons?
Ah oui.
Parce que dans le foot féminin, on a toujours dit que le problème, c'était les gardiennes.
Non, maintenant, maintenant les gardiennes ont beaucoup progressé. Non. Mais il y a toujours une différence naturellement physique au niveau filles et garçons. Mais moi, je suis vraiment épaté par les gardiennes maintenant. Ils ont beaucoup progressé parce que ils ont des entraînements spécifiques.
Et on leur demande aussi de repartir au pied.
Oui, tout à fait.
Ouais. Oui, la mode, ça marche aussi chez les filles.
Chez les filles, exactement. Ouais.
Voilà pour ce débat gardien, c'est toujours intéressant parce que, comme tu le dis, Roland, c'est un poste pas comme les autres, donc qui nécessite une analyse un peu pas comme les autres.
Et puis même, c'est une concentration à la veille d'un match qui n'est pas comme les autres. C'est pour ça que je sais très bien que c'est pas interdit par un règlement, mais c'est pour ça que jamais ça me serait venu à l'idée de mettre un gardien de but capitaine. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, se concentrer. Quand, par exemple, je vois Loris faire des efforts pour répondre à toutes les questions.
Il y en a un paquet quand même, des gardiens capitaines qui ont bien marché.
Je te dis, c'est comme quand, par exemple, je suis contre, mais ça me regarde, je suis contre le fait que celui qui a obtenu le pénalty, il tire lui-même son pénalty. C'est pas interdit de le marquer. Et bien, le jour qu'il le rate, j'ai les boules.
C'est ça. Allez, on va conclure avec
et un gardien de but qui tire les pénaltys. Alors Roland,
on l'a vu dans l'histoire du foot, ça. Chilavert,
le magnifique Chilavert.
Allez, Survivor pour conclure.
L'After Foot sur RMC avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Il n'y a plus que 11 joueurs de l'équipe de l'After au deuxième tour de ce premier Survivor de la saison. Il y avait près de 3000 parieurs. Gros écrémage déjà. Il n'en reste plus que 1200. 11 dans l'équipe de l'After. Roland, tu n'y es plus, toi.
Non.
Alors, qui joue le principe du survivor, il est simple. On joue à chaque fois une équipe en Ligue 1, et puis si l'équipe gagne, vous survivez, sinon c'est fini. Ça se passe sur winamax.fr. Nicolas Jamin, Maxime Latrubert, Jérôme Thomas, Romain Canuti et Florent Gautreau jouent Paris ce week-end qui reçoit Nice. Jimmy Brown, Kevin Diaz jouent Monaco qui reçoit Nantes. Jean-Louis Tour, Thibaut Leplat, Thibaut Giangrande jouent Marseille qui va à Angers. Et le seul Daniel Riolo joue Toulouse qui reçoit Montpellier. Voilà.
Ça, c'est une stratégie. C'est j'ai décidé, parce que toi, en fait, Roland, dans ce jeu, je gagne trop facilement.
Ouais,
donc j'ai décidé d'ajouter le panache.
Je me mets à ta place, tu as raison. Voilà.
Merci coach, merci Daniel, merci Dominique.
C'est très bientôt. Bien d'avoir invité.
Dans l'after, que tu écoutes en podcast en Australie, t'as bien raison. Ouais. Allez, à demain soir pour le retour de Ligue 1 avec Angers Marseille. Bye bye.
RMC, l'after foot.